La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette danse des mots qui vous propose un double voyage dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace parce que nous allons nous transporter en Acadie, c'est-à-dire sur la côte ouest canadienne, ce Canada francophone qui n'est pas le Québec, et voyage dans le temps puisque nous allons parler de 1755. Alors est-ce que vraiment on va retourner en arrière de 2 siècles et demi? Oui et non. Je vous propose d'abord de revenir en arrière mais un peu moins et de nous retrouver dans les années 1970. Car c'est à cette période que s'est formé le groupe musical 1755 ou 1755, symbole de l'identité et de la culture acadienne. La danse des mots, donc, va se demander pourquoi ça s'appelle 1755 et va le demander à l'un des fondateurs de l'orchestre, Roland Gauvin.
J'en ai connu plusieurs. Des fois changer souvent, c'était avant ta vie, c'était avant ton temps, à ce temps c'est plus pareil, je vois plus ça comme avant, le monde a bien changé, je t'aime à tous les jours, j'apprends à vivre mieux, j'apprends à vivre heureux, le monde a bien changé. Il n'y aurait pas d'ouragan qui pourrait m'arracher la chaleur des lèvres, la douceur de ta bouche, la tendresse de tes bras, ton corps et ma chanson. Le monde a bien changé, je t'aime à tous les jours, j'apprends à vivre mieux, j'apprends à vivre heureux. Le monde a bien changé.
Bonjour Roland Gauvin.
Bonjour.
Alors, je sais que vous êtes l'un des fondateurs de 1755. On dit 1755 et pas 1755. Est-ce que vous vous rappelez comment ce groupe a été nommé? Comment vous avez trouvé ce nom-là? Est-ce que vous l'avez trouvé vite, tout de suite? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui symbolisait pour vous à l'époque?
Je dois te dire que ça n'a pas été un choix qui a été fait vite. Dans le temps, on était 4 musiciens qui se rassemblaient pour faire de la musique, puis on allait sous le nom de Pierre, Roland et Gérald, puis on trouvait que c'était pas tellement génial. Puis on cherchait à avoir un nom qui pouvait nous identifier à la fois comme étant des Acadiens, quelque chose de différent qui pouvait à la fois se dire facilement dans une langue ou dans une autre, parce qu'on vit quand même une dualité au niveau linguistique ici. Ce qui s'est passé, on a commencé à mettre des noms sur papier. Puis c'est sûr, dans le temps, ben c'était souvent, il y avait des groupes qui avaient des noms d'insectes ou d'animaux ou des parce que quand même ça date d'une quarantaine d'années au moins. Mais on était là, puis on était chez moi justement. Puis, affiché au mur, j'avais un tableau de la déportation des Acadiens, le grand dérangement qui s'est passé en 1755, la date la plus triste de notre histoire, puis qui m'avait été légué par mon grand-père, qui pour moi était une grande influence sur le fait que je parle toujours français, que je suis fier de qui je suis et tout ça. Puis j'ai gardé le tableau, puis j'ai dit au gars, oh, tiens, regarde, 1755. Puis on s'est tous mis à rire parce que c'était comme un chiffre. Mais on l'a quand même mis sur la page. Puis là, il y a d'autres noms qui s'est sorti. Puis finalement, je pense qu'on avait 30-40 de noms. Bien, il y en avait qui étaient complètement, qui n'avaient aucun sens. Il y en avait qu'on se disait, les Anglais ne sauront jamais comment prononcer ça. Ils vont faire des moqueries de nous. Et finalement, on est tombé sur 1755, il revenait, il restait 3 noms sur la liste, il était là. Donc on s'est dit, gars, c'est inévitable, ça nous identifie. La seule chose puis on n'y a pas nécessairement pensé tout de suite, c'est par après, une fois qu'on s'est vraiment doté du nom, C'est qu'on aurait pu avoir des répercussions des gens, parce que quand même, c'est, comme je disais, c'est une date la plus triste de notre histoire. Puis nous autres, on était un groupe qui prêchait la fierté, la fête.
En même temps, c'est une date fondatrice, quoi.
Oui, jusqu'à un certain sens fondatrice, dans le sens que c'est une date qui marquait la fin d'un Acadie, puis le début d'une nouvelle Acadie.
Et tout le monde connaît cette date en Acadie. C'est une date très connue, on n'a pas besoin d'expliquer aux gens ce qui se passe. Même les anglophones, ils savent. 1755, ça, oui. Ça signifie quelque chose pour eux.
Oui, oui, oui ça, c'est... mais même si ça ne signifiait rien, ils se posaient toujours la question, pourquoi cette date-là? Mm-hmm. Puis ça nous permettait quand même de rappeler un peu l'histoire. Ça me fait rire un peu parce qu'on avait été jouer dans l'ouest du Canada, dans la ville de Calgary. Puis le journal de Calgary, le grand journal, le lendemain du spectacle, le gars qui avait venu voir le journaliste était tellement ébloui par le spectacle. Puis il était anglophone, mais il avait quand même aimé la musique, il avait aimé l'énergie. Puis il avait commencé, l'entête c'était, je le traduis, 1755, une année mémorable et un groupe extraordinaire. Mais pour lui, le mémorable, c'était, tu sais, de façon, c'était une année à signaler parce que c'était une bonne année, et oui. Non, une année triste. Mais ça nous a permis par la fin d'arriver, de corriger, si tu veux, puis de... Donc, ça a été, pour moi, c'est une belle aventure. C'est ça qui a commencé ma carrière, puis qui m'a permis ou m'a donné le goût de vouloir continuer.
Donc, vous commencez à chanter, à écrire des chansons, tout le monde les écrit, et tout de suite, vous commencez avec ce mélange. Alors, c'est pas exactement du chiac, mais quand même, c'est l'une des caractéristiques des paroles de ce groupe 1755, c'est qu'ils sont dans un français d'Acadie, qui est pas un français puriste, où il y a beaucoup de caractéristiques de la langue, de particularités, d'anglicisme, d'expressions anglaises qui sont détournées, réappropriées. Ça fait partie du jeu.
Ça fait partie du jeu, ça fait partie de qui on est. Je pense qu'au tout début, quand on a commencé à vouloir créer des chansons, mettons qu'il n'y en avait pas un de nous autres qui se sentait vraiment capable au niveau en tant qu'auteur. Parce qu'on avait toujours été dit que le chiac, puis le parler de tous les jours, c'était le mauvais parler.
Ouais. Alors, rappelez-nous en deux mots ce qu'on appelle le chiac, puisqu'on utilise ce mot très courant en Acadie, au Nouveau-Brunswick, que tout le monde ne connaît pas.
Oui. Le chiac, si vous voulez, c'est un mélange de vieux français, des vieilles expressions que nos ancêtres ont apportées, un français courant ou le français standard, si vous voulez, puis des expressions anglaises qui sont entremêlées. Des fois même, on peut mêler un mot français avec un mot anglais, puis on crée des nouveaux mots, puis ça dépend des régions. C'est surtout parlé dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, mais il y a quand même des variations dépendant des villages, des comtés. Mais c'est vraiment un patois, si vous voulez, qui est unique à chez nous. Puis quand on a commencé à faire nos propres chansons, c'est grâce à un bonhomme qui s'appelle Gérard Leblanc, qui, selon moi et selon plusieurs personnes, est probablement notre plus grand poète acadien. C'est sûr qu'on a eu d'autres, puis il y en a qu'on peut-être maintenant atteint des plus hauts niveaux, au niveau reconnaissance, mais je pense que Gérard a été sans doute l'instigateur, puis souvent, il est une référence au niveau de la poésie acadienne. Lui, un bonhomme qui s'appelle Guy Arsenault, qui a écrit un recueil qui s'appelle Acadie Rock, tu sais, qui a lancé tout le mouvement de... Tu sais, on lisait ça, puis on se disait, ben, mon doux, il parle dans la langue de tous les jours, on peut écrire de la poésie, on peut s'exprimer. C'était de ma génération, des années 60, les années 70, qui a fait partie du mouvement, de l'explosion qu'il y a eu de la Renaissance, si on veut, de la musique et les arts acadiennes. Parce qu'avant ça, je veux dire, c'était axé surtout vers le traditionnel, que ça soit les chants traditionnels, même qu'il y a beaucoup de chants et de musique musiques qui ont été perdues parce que les gens les ont mis de côté, ils ont été influencés par d'autres, musiques irlandaises, écossaises. À des moments donnés, on jouait des rilles de violon, puis on disait que c'était des rilles acadiens, mais c'était des rilles celtes qui venaient de loin, tu sais. Mais finalement, c'est que dans ces années-là, on a commencé à voir vraiment le plus de poètes. On a commencé, plus au niveau des écrivains, c'est sûr, au niveau du cinéma, il a commencé à voir du cinéma qui a commencé à se faire, le théâtre, mais ça faisait juste de commencer, on commence à voir nos premières compagnies théâtre, au niveau des arts visuels, nos premiers artistes visuels, des bonhommes comme Herménégil Chiasson, d'ailleurs,
et d'autres. Qui est peintre aussi, et plasticien.
Qui est artiste peintre, ça a tout commencé à exploser dans ces années-là, puis nous,
et donc, est-ce que Roland Gauvin, c'est une période où justement vous avez été les premiers à utiliser cette langue, le chiac, qui était une langue courante et une langue populaire, pour faire une expression artistique? Est-ce qu'avant, justement, on considérait que c'était une langue qui était bien pour être une langue de la rue, pour parler entre soi, et que pour faire des poèmes, pour faire des chansons, il fallait justement avoir un peu le petit doigt en l'air et privilégier un langage moins bas, plus sélectionné?
Plus alors accessible, que... si tu veux. Ouais. Nous autres, c'était exotique jusqu'à un certain point. Puis souvent, même, on nous disait, à l'époque, quand on a commencé dans l'industrie musicale, puis à faire des disques, puis à percer les marchés extérieurs, au début, on nous disait, oh, ben, les gens vont ça ne marchera pas, les gens ne vous comprennent pas, il faudrait vous sonner... Il y a certaines expressions, ça ne passera pas ici, mais au contraire, ça marchait. Puis je pense que c'est peut-être parce que aussi, c'est qu'ailleurs aussi, on était dedans cette période de changement, de mouvement, de retour aux sources. Parce que nous autres, la raison qu'on a commencé à chanter en chiac, en français, c'est qu'on voulait laisser savoir aux gens alentour qu'on était là, qu'on voulait s'exprimer dans cette langue-là, parce que c'était qui ce qu'on était. Le groupe 1755, on a choisi, je ne sais pas pourquoi que ça s'est adonné comme ça, mais notre premier spectacle pour le public, c'était dans un établissement ici, on appelle ça une taverne, dont une brasserie au Québec, et un pub, un bar, qui était très populaire, mais chez les anglophones. Donc, probablement la pire endroit pour nous de jouer. Puis on arrivait là ce soir-là, mais à faute d'avoir un répertoire totalement français, c'était un répertoire qui était peut-être 60% anglais, 40% français, qui était quand même déjà beaucoup pour nous.
Le répertoire de 1755?
Oui, dans les premiers spectacles, parce que...
Quand vous dites 60% anglais, 40% français, ça veut dire qu'il y avait des chansons qui étaient toutes en anglais?
Oui, ah oui, ah oui.
Et ça, c'était de l'anglais anglais, ou bien il y avait aussi un peu d'inclusion de mots français? Est-ce que c'était de l'anglais pur, entre guillemets, ou bien est-ce que c'était de l'anglais d'Acadie?
Non, c'était de l'anglais pur, parce qu'on interprétait souvent des chansons qui étaient connues, d'artistes qu'on avait aimés, et même dans les chansons françaises aussi, parce qu'on commençait juste à écrire, nous, comme tels. C'était les premiers spectacles sous le nom 1755, on était jeunes, on avait débuté ça pour le pur plaisir de faire de la musique, puis là, on se retrouvait dans... Après cette soirée-là qui a été assez difficile parce qu'on avait beaucoup d'anglophones qui criaient après nous, le lendemain, on a amené beaucoup d'amis francophones pour un peu contrer. Mais ça s'est bien passé. On s'est vite aperçu. Il y avait quelque chose. Il y avait les harmonies, il y avait une énergie qui était là, que les gens aimaient. Puis dans peu de temps, ben ça nous a encouragés. On voyait qu'il y avait autant des bonnes réactions, ça je voulais dire, par rapport à nos chansons.
Et alors, Roland Gauvin, très vite, vous avez eu un succès populaire parce que peut-être, justement, vous ameniez cette langue autre part que là où elle était avant. C'était une espèce de reconnaissance pour la langue comme ciment identitaire, comme, justement, ferment de qui vous étiez.
Je pense que oui, moi. Je pense que ce qui arrivait, c'est... Nous autres, on l'apportait, puis les gens qui venaient nous voir se reconnaissaient, s'entendaient.
Et musicalement, c'était de la musique moderne. C'était orienté vers une musique plutôt rock. C'était de la chanson un peu rockisante, on peut dire.
Oui, si tu veux, c'était... Puis même ça, c'est spécial, parce que je pense que 1755 avait un son qui était unique. Chacun de nous a apporté des couleurs Puis quand tu mets tout ça ensemble, oui, on peut dire que c'était comme un rock avec du country, avec du folk, avec des éléments traditionnels. Avec... Ça devenait ce mélange, explosion. Il y avait beaucoup d'humour dans notre musique. Puis on est venu à faire deux disques quand même qui ont bien été reçus. On a été chanceux, on a vécu des bons moments.
D'entendre de nouveau 1755. Alors, comment cette musique, comment ces paroles, comment cette langue que vous portez a été reçue en dehors d'Acadie? En dehors d'Acadie, mais au Canada, par exemple au Québec. Est-ce que vous avez eu du succès? Est-ce qu'on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces sauvages? Qu'est-ce que c'est que ces gens bizarres? Est-ce qu'il y a eu un intérêt pour un exotisme pour les Québécois? Comment ça s'est passé au sein de la francophonie québécoise?
Je pense que ça s'est quand même assez bien passé. On a quand même eu beaucoup de succès avec le groupe 1755. On a, à deux reprises, on a été en nomination à la 10 pour le 10 de l'année dans la catégorie folk rock. Mais c'était une période aussi où il y avait plusieurs artistes qui faisaient qu'est-ce qu'on faisait. Puis comme n'importe quel marché, je pense qu'on protégeait un peu ce qu'on avait des forces qui pouvaient venir de l'extérieur. Puis c'est, ça, c'est normal, parce qu'à un moment donné, je me souviens qu'une des critiques qu'on nous avait données, c'est que notre accent était trop comme Edith Butler, qui avait beaucoup de succès à l'époque même.
Alors, qui est Edith Butler?
Edith Butler, c'est probablement une de nos plus grandes dames de la chanson, qui a connu une carrière internationale, qui a vendu beaucoup, beaucoup de disques au Québec, surtout. Donc, nous, on a pris ça un peu comme si... Déjà, on a une, on n'a pas besoin de deux. Puis ça nous a stimulé un peu pour travailler le marché davantage. Mais on a toujours, même encore aujourd'hui, après 40 ans, même si le marché, comment je dirais ça, le marché qui est là, où l'industrie musicale présentement au Québec nous connaît presque plus. Là où on a joué beaucoup, les gens se rappellent toujours de nous. Puis on va là, on y va à l'occasion. Ça a été la même chose en France. On a eu l'occasion d'aller deux fois en Europe parce qu'on a fait plus que la France. Puis la réaction a été très, très, très bonne pour la musique. Je pense que là, il y avait une ouverture qu'on n'avait jamais vue avant. Moi, j'ai vu par après par d'autres occasions, puisque j'ai eu l'occasion d'y aller plus tôt. Mais il y avait plus une ouverture sur qu'est-ce qu'on faisait, parce que les gens étaient peut-être plus ouverts sur les arts en général qui sont ici. Il faut comprendre, on les suit l'influence américaine ici. Hein.
Alors, Roland Gauvin, vous venez de le rappeler, maintenant, en 1755, à presque 40 ans, c'est presque 1795. pour l'écriture des chansons, est-ce que vous avez l'impression que la langue est la même? Soit pour la langue que vous utilisez pour écrire vos chansons, soit même pour le chiac, cette langue qui est un mélange de français et d'anglais, qu'on entend ici à Moncton, qui est l'une des grandes villes d'Acadie, ou ailleurs, au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'en 40 ans, la langue de 1755 a changé et est-ce qu'elle a suivi l'évolution de la langue de l'Acadie?
Ouh, waouh, grosse question. Je pense qu'il y a eu une évolution, ça c'est certain, parce que même au niveau du chiac, moi je remarque beaucoup plus d'anglicisme, puis ça me fait quelque chose, parce que, surtout pour là c'est devenu, on va servir de... Moi, dans mon temps, on n'aurait jamais dit autre chose qu'une chemise. Aujourd'hui, j'entends les jeunes dire « une shirt ».
Ah oui. Donc le lexique anglais, il a gagné, il a pris plus d'importance.
Il est en train de prendre plus d'importance, ouais. Mais c'est normal dans un sens parce qu'on est dans un milieu anglophone, dans un pays. Tu sais, on a bien beau dire qu'on est dans une province et une ville bilingue, mais on s'entend que tout ce qui nous entoure, qu'on est bombardé, donc soit au niveau des médias, au niveau des radios, au niveau de tout, télévision, c'est quand même beaucoup, beaucoup anglophone. Il faut que le francophone décide, je veux consommer le produit francophone et aller le chercher.
Peut-être. Alors, comment s'y prend-on justement pour préserver cette langue française? Est-ce que vous avez l'impression que en vous emparant des mots anglais, même si c'est paradoxal, c'est un rempart pour le français? Parce que si vous dites j'ai mis ma shirt, c'est vraiment du français. Même si vous empruntez un mot, c'est j'ai mis ma shirt, et shirt avec un accent particulier devient un mot français. Si vous dites j'ai watché la télévision, la TV, bah c'est un mot français watché, oui. Puisque demain je vais la watcher de nouveau et hier je l'ai watché, ça se conjugue. Donc ça reste du français. Est-ce que cette façon de s'emparer des mots anglais, c'est une façon de résister?
Peut-être. Maintenant, moi je le vois un peu comme ça, dans le sens que je pense que ce qui m'énerve le plus quand j'entends ça, je voudrais pas que le chiac devienne l'inverse de ce qu'il est maintenant. Donc, de l'anglais avec quelques mots français.
Ouais. Il faut que ça soit du français avec quelques mots anglais. La proportion est importante.
Ouais, pour moi, elle est importante. J'aimerais qu'on puisse préserver aussi certaines de nos vieilles expressions. Je vais prendre l'exemple, une des plus belles expressions que j'entendais dans le temps, puis je ne l'entends plus, c'est mon grand-père. Souvent, il arrivait, puis si j'aurais été assis... Pas vraiment triste, mais t'sais, jongleur un peu, comme si j'étais perdu dans un coin. Là, il aurait arrivé puis il aurait
rentré. On dit jongleur quand on est perdu dans un coin?
Il aurait arrivé puis il aurait dit, t'as de l'air d'avoir la bénaise en peine.
La bénaise en peine.
Puis pour moi, c'est tellement une belle expression.
La bénaise, qu'est-ce que c'est? C'est le bien-être.
Le bien-être, finalement. La bénaise, c'est une vieille expression qui voulait dire le bien-être. Je suis bien à l'aise. Puis, en peine, ça veut dire, hein, pas vraiment, t'es pas vraiment bien à l'aise, finalement.
Comme une âme en peine, que l'âme en peine, c'est l'âme qui est sur le point d'aller en enfer.
Oui, justement. Ah. T'as l'air d'être perdu pour une raison ou une autre, préoccupé plutôt. Mm-hmm. C'était peut-être plutôt ça l'expression. Mais pour moi, je trouvais que c'était beau. T'sais. On s'en sert plus de ces vieilles expressions-là. J'ai eu l'occasion d'aller dans la région de Bressuire il y a quand même assez longtemps passé, puis j'ai rencontré des gens là-bas. Je pense que c'est en Normandie, si je me trompe pas. On est descendu, passé quelques jours, puis les gens qui m'ont accueilli, c'était des gens qui étaient quand même assez âgés à l'époque. Ils étaient dans la 80 à peu près. Puis, le premier soir que j'étais là, ils ont été se coucher, puis j'ai dit, quand ils sont allés se coucher, j'ai dit, voulez-vous que je barre la porte? Puis la dame se vire, puis elle me regarde, puis là, elle se vire vers son mari, puis elle dit, Albert, t'as entendu? Il a dit barrer. Mais c'est une expression qu'eux autres se servaient. Mais ça voulait dire fermer à clé, finalement.
Oui, oui. Et c'est une expression qu'en Normandie, on emploie, enfin que les vieilles personnes emploient, parce que c'est de l'ancien français, enfin c'est une vieille façon de parler, normande, ou peut-être poitevine, vendéenne. Ouais.
Ouais. Donc pour moi, c'est... Puis là, on est passé, ben pas là tout de suite, mais le lendemain, on a passé deux belles heures là, à parler de vieilles expressions qu'on aurait... Moi, j'aurais dit, chez nous, on dit pas clôture, on dit bouchure, puis là, elle aurait dit, ah ben oui, nous, on disait bouchure. Puis à un moment donné, elle m'a regardé, puis elle a dit, j'aimerais tellement que mes enfants connaisseraient ces vieilles expressions-là. Puis, finalement, j'ai un ami aussi breton, un bonhomme qui s'appelle Gilles Servat, qui est un grand défendant de la langue bretonne. Il dit, tu sais, finalement, il dit, quand quelqu'un dit un mot et quelqu'un d'autre le comprend, là, c'est vraiment un mot. Ou fait un son, ou fait une expression, puis l'autre, c'est ça un mot. Puis, est-ce que c'est un bon mot, un mauvais mot? C'est un bon mot parce que quelqu'un d'autre l'a répondu, l'a compris. So, finalement, lui, ça lui faisait quelque chose de voir toutes les vieilles expressions qu'on perdait parce qu'on voulait standardiser la langue. Puis, je comprends aussi qu'il faut se comprendre. Là. Ouais. Mais à un moment donné, moi, dans les écoles, l'approche que j'ai eue, parce que pour longtemps, moi, quand j'étais à l'école, on me disait que je parlais mal, que j'écrivais mal, même au point où ce que j'ai beaucoup perdu de l'estime dans moi-même à ce niveau-là, même à me faire penser que je devrais peut-être aller à l'école anglophone, mais chez nous, ça n'allait pas marcher. Mon grand-père était trop un grand nationaliste, puis défendait tellement la langue acadienne, puis la culture. Mais ce qui est arrivé, c'est maintenant, quand je vais dans les écoles, je dis aux jeunes que c'est correct de parler chiac, c'est correct d'avoir le patois local. Non. Mais la raison qu'on est là, c'est pour apprendre un français qui va nous permettre de se faire comprendre par tout le monde.
Alors, Roland Gauvin, sans être trop prétentieux, est-ce que quand même vous avez l'impression que vous militez pour la culture francophone? Parce que qu'est-ce qui fait qu'une langue subsiste, résiste? D'abord, c'est que les gens la parlent, mais c'est aussi qu'elle a une vraie culture, et que cette culture, elle est connue, qu'elle est désirable. S'il y a de la chanson en chiac qui a du succès, que les gens écoutent, que les gens fredonnent dans la rue, bah, c'est ça qui va faire une colonne vertébrale pour le chiac en même temps. Ça ne sert pas uniquement à aller à l'épicerie pour acheter des petits pois, une langue. Ça sert à s'exprimer, ça sert à vivre. Donc, vous aidez quand même à la subsistance de cette langue.
Je pense que oui, je pense que... Moi, ça fait 40 ans que, pour moi, c'est très, très important que je fasse la promotion de ma culture, ma langue. Maintenant, c'est dans les écoles, promotion de la lecture et d'autres choses. J'ai toujours fini mes spectacles avec « Soyez fiers de qui vous êtes et prenez garde à vous autres ». On devrait être fiers de ce qu'on a acquis, puis ce qu'on a créé, puis ce qu'on est devenu. Puis pour moi, ça, c'est important. Puis je vais continuer à pousser. Puis c'est à grande partie, c'est à travers la langue, c'est sûr.
Merci bien donc à tous les membres de ce groupe 1755 et merci surtout bien sûr à Roland Gauvin qui nous en faisait aujourd'hui l'historique dans la danse des mots qui vous est proposé par le réseau Canopé et par RFI et par Lucie Bouteloup, par Véronique Durand et par Yvan Hamard.